Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mercredi 1er septembre. Bonne journée. Bienvenue au 98,5. Une autre superbe journée. C'est du soleil, 24 degrés. Quelques petits nuages ici et là. Au cours de la soirée et de la nuit, on prévoit un ciel quand même très dégagé. 13 degrés, c'est le minimum. Demain, jeudi 2 septembre, c'est du soleil 23. Vendredi, on termine la semaine avec du soleil 24. Samedi, jusqu'à maintenant, on prévoit une très belle journée 25, donc dans la continuité. Et puis, dimanche, lundi, ça se gâte un peu jusqu'à maintenant avec des prévisions de ciel gris et possiblement d'averses pour la journée de samedi. Première nouvelle ce matin, le fameux passeport vaccinal. Alors, ça commence officiellement aujourd'hui. Je rappelle que d'ici au 15 septembre, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'amende qui s'applique, mais c'est une grande générale. Donc, vous allez aller au gym aujourd'hui, vous allez au restaurant, vous allez devoir présenter cette preuve vaccinale et une deuxième pièce d'identité avec photo qui confirme qui vous êtes réellement. Il y a beaucoup de questions, là, puis on va poser ces questions-là ce matin au ministère de la Santé. Là. Mais déjà, je peux vous dire, parce que il y a des gens qui ont soulevé la question, j'ai pas de pièce d'identité avec photo. Hier, ça a été abordé au point de presse, là, notamment pour les personnes âgées qui n'ont pas à avoir une photo sur leur carte d'assurance maladie. Alors, si t'es âgé, t'as pas de carte d'assurance maladie avec photo, t'as pas de permis de conduire, t'as pas de passeport, on va accepter une pièce d'identité qui vient d'un organisme public, par exemple, avec votre nom. Et contrairement à ce que dit le ministre Dubé hier, là, ça ne sera pas nécessaire qu'il y ait une adresse. Il y a des gens qui sont un peu inquiets de ça. Donc, deux pièces, incluant le passeport. Pour les plus jeunes, ça pourrait être comme, par exemple, une carte d'étudiant qui pourrait confirmer. Et je le sais, là, parce que je le vois dans vos courriels, on est dans une période d'ajustement, d'adaptation. Il y a des gens qui voudraient élargir le passeport vaccinal, par exemple aux universités, puis même au milieu de l'éducation, puis pourquoi pas inclure les garderies. Mais pour l'instant, on détermine ces niveaux d'activité. Premier constat qu'on peut faire, il y a du grognement. C'est sûr que ça ne tente pas à personne, puis entre vous et moi, là, on souhaite que ce soit le plus bref possible. Mais en même temps, il y a une mécanique qui va s'installer. Il y en a qui protestent parce qu'ils sont contre les mesures sanitaires. Parfait. Puis il y en a d'autres qui voient ça comme une espèce d'ajout au fardeau qu'on a imposé, par exemple, aux restaurateurs depuis le début de cette pandémie. T'sais, on les a fermés. Après ça, on a dit « Vous allez avoir moins de clients. » Après ça, on leur a dit « Vous allez prendre telle mesure à l'intérieur. Maintenant, vous allez gérer le passeport sanitaire si vous voulez recevoir des clients à l'intérieur. » Puis en même temps, pour tout de suite, on vous donne pas plus de latitude à l'intérieur. T'as pas le droit de recevoir plus de monde qu'avant, là. Peut-être que ça va venir. Alors, premier volet, le passeport. Deuxième volet, la campagne de vaccination, qui va très bien, on va se le dire. On sait que Québec va imposer le vaccin, donc, à tout le personnel du réseau de la santé qui est en contact avec des patients. Pourquoi? Parce que même si le nombre demeure à la hausse, c'est quand même moins grave en termes d'hospitalisation. Il faut comprendre, là, on l'a vu, puis je vois des médecins là, sur les réseaux sociaux qui confirment un peu cette tendance, c'est-à-dire que les jeunes ne meurent pas, mais peuvent rester à l'hôpital plus longtemps et occuper le lit. Alors, ça crée quand même des délais. Et avec le variant, puis on regarde ce qui se passe autour, c'est sûr que et la reprise des activités à l'école et monde du travail, on est convaincus des projections donne des tendances à la hausse pour le mois de septembre. Alors, comment on va passer au travers ça, puis on veut pas revenir en arrière, puis on veut pas reconfiner, puis on veut pas se retrouver avec des situations. Puis on le voit dans d'autres pays où c'est extrêmement difficile, puis d'autres, je regarde la Nouvelle-Zélande qui a une approche pas mal, disons, raide, ben on confine rapidement puis on déconfine, mais je pense que Dubé a raison quand il dit que les prochaines semaines vont nous donner le ton pour l'automne, puis en espérant qu'avec ce niveau de vaccination, et je dirais de respect d'un certain nombre de mesures, on va pouvoir continuer à vivre. Il n'y a personne qui a envie de se retrouver enfermé encore, puis privé de liberté. Le troisième aspect, vous m'avez énormément écrit là-dessus, là, c'est la cohabitation en milieu de travail entre, je dis pas des gens qui sont contre les vaccins, là, mais des gens qui sont complotistes et militants. Je peux vous parler d'école, je peux vous parler d'un prof de philo, par exemple, qui a, au retour au cégep, fait une longue sortie contre les gouvernements et avec un discours là sur qu'on retrouve sur les réseaux sociaux de complotistes, puis bon, des étudiants mal à l'aise, mais c'est ton prof. Fait que c'est, il y a comme une espèce de... Puis des collègues de travail, à la STM, par exemple, on me raconte dans les garages, là, tu sais, t'as des gens qui sont double vaccinés, puis à côté, t'as ceux qui veulent rien savoir, qui le disent, puis qui se sacrent des mesures sanitaires. Puis là, je vous parle même pas des chicanes entre des membres de famille. Tu sais, as-tu le goût de faire un party avec mon oncle qui est complotiste, tu sais, puis bon. Fait que ce volet-là, on en parle un peu moins, mais il est extrêmement présent, je pense, dans beaucoup de milieux. Et pour des employeurs, c'est de se dire, mais comment on va gérer ça? Il n'y a pas d'obligation, là. Il y a certains employeurs qui veulent que leurs employés soient double vaccinés, mais il y en a d'autres qui veulent pas trop non plus se ramasser avec des plaintes, puis des griefs, puis peut-être même des poursuites. Alors, va être intéressant à voir comment ces premières semaines, surtout à partir de la semaine prochaine, là, puis on le voit, la rentrée s'organise. L'heure de pointe du matin n'est pas encore, évidemment, bordélique comme on l'a connu avant la pandémie, mais c'est sûr qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui se déplacent chaque matin sur le réseau. Et puis, il y a eu ce débat, si on veut, au sujet de ces pirates informatiques gentils, là, qui testent le système du passeport pour montrer les failles. Et témoignage donc à Radio-Canada, où ce jeune homme dit « Moi, j'ai fait ça pour les aider et j'ai demandé l'immunité. » Et ça m'a été refusé. Et plus tard dans la journée, donc, vous avez vu les pirates gentils, ceux qui participent au Hackfest, Patrick Mathieu, à qui on va parler, qui est le cofondateur, qui ont dit « Ben, nous autres, c'est terminé. Si vous pensez qu'on va s'exposer à des poursuites puis des amendes pour aider le gouvernement, c'est pas vrai. » Et là, Éric Kerr, qui est le ministre responsable, a dit « On n'a jamais eu l'intention de poursuivre Louis, celui qui a montré les failles dans le passeport vaccinal. » Rappelons-nous, la semaine dernière, on en a parlé. C'était pas des informations majeures, mais ça montrait 2-3 déficiences. Entre autres, d'être capable de générer des codes. Alors, c'est des gens qui aident le gouvernement. C'est étonnant que tu aies besoin de gens comme ça pour être capable de peaufiner puis bonifier, mais en même temps, des pirates, disons que sont souvent recrutés justement en raison de leur connaissance. Alors, tout ça pour vous dire que là, l'État québécois est obligé de reculer. Puis là, on va nous sans doute nous concocter une jolie réponse ce matin. On va parler avec le ministre Kerr. Mais il y a 2-3 irritants dans ça. Est-ce que le ministre s'est fait dépasser par sa machine qui a décidé de traiter le pirate comme n'importe qui aurait fait une infraction criminelle? Puis là, il récupère sur le plan politique parce que c'est sur la place publique. Puis ça amène beaucoup de questions aussi, je dirais, sur la compétence. Tu sais, on a beaucoup parlé des débordements de coûts, du bordel informatique. Est-ce qu'on a vraiment les meilleures pratiques? Il n'y a pas aucun système d'infaillible. Mais beaucoup de gens m'écrivent de certaines firmes, des gens qui ont été consultants, puis même de l'intérieur là, du ministère. Je peux vous dire que ça coûte cher, puis des fois, tu as l'impression qu'on est en retard, puis que beaucoup de scepticisme sur cette machine-là. Donc, on va vous parler de ça. Maintenant, un petit coup d'œil vers la campagne électorale. On suit ça du coin de l'œil. Peut-être pas un intérêt démesuré, là, mais il y a le débat des chefs et on est en route là, vers le 20 septembre. 2-3 observations ce matin. Ce sondage léger est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que M. Trudeau a provoqué l'élection. Il n'a pas été renversé. Il a décidé que c'était le moment, que c'était sa meilleure fenêtre d'opportunité. Or, le vent tourne. Erin O'Toole et le chef du NPD, Jack Meeting, ont probablement, en tout cas au niveau des intentions de vote, la meilleure performance. Il y a comme une déception des électeurs de M. Trudeau. Regardez ça ce matin, là. 40-quelques pourcents qui considèrent qu'ils ont une moins bonne impression de M. Trudeau et que M. O'Toole et Singh vont quand même très bien. En gros, les conservateurs arrivent à dépasser Justin Trudeau. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont prendre le pouvoir. On est, semble-t-il, assez loin d'un gouvernement majoritaire. Le Bloc québécois demeure relativement stable. Mais c'est intéressant de voir quand même ces mouvements. Et tout le monde s'attendait à une campagne assez plate, avec peu de développement. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre d'enjeux. M. Trudeau qui sort le chéquier, encore aujourd'hui, paraît-il, va annoncer un programme là, pour inciter les gens plus âgés à continuer à travailler. Promet des transferts aux provinces, mais en même temps, il y a une forme d'empiètement, puis il veut poser des conditions. Les conservateurs, hier, parlaient de laïcité. Le Bloc québécois, on va se le dire franchement, ça a été une campagne jusqu'à maintenant pas facile. Quoi qu'en dise M. Blanchet, là, l'histoire du troisième lien là, écologique, puis de nous dire qu'il n'a pas appuyé ça, puis vous ne trouverez pas une déclaration. Les gens sont convaincus qu'il est d'accord avec ce projet-là, puis que dès que tu dis qu'il est perfectible, puis tu ne peux pas juste prétendre être le porteur de ballon du gouvernement du Québec. T'sais, tu dois avoir des valeurs quelque part, tu dois avoir des idées. Alors, puis on sent des frictions. Ça a causé, entre les membres de la famille souverainiste, certaines tensions. Hier, point de presse, il y a quelqu'un qui demande à sa candidate du Bloc, Ansaf Haldar, pourquoi elle a appuyé Maxime Bernier. Là, M. Blanchet ne veut pas qu'elle parle. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu autoritaire, parfois un petit peu arrogant. Et disons que ça s'exprime davantage cette fois-ci que lors de la campagne. Puis là, il y a des gens qui m'écrivent en disant « c'est effrayant, ils bloquent du monde sur les réseaux sociaux ». Ben moi, on n'a pas le même, le même point de vue. J'ai le droit, puis même si j'étais en politique, je prendrais le droit puis de bloquer les gens. Les gens qui t'emmerdent, les gens qui t'écœurent, les gens qui t'envoient 83 000 messages, ça se peut que tu n'aies pas envie que ça vienne polluer ton environnement. Puis je sais qu'il y a une école de pensée qui dit « Ah, quand tu as un poste élu, tu dois bloquer personne. » C'est un point de vue, mais c'est pas nécessairement celui que je partage. Je peux comprendre Blanchet là-dessus. Alors, donc voilà pour la campagne électorale. Maintenant, dans Le Devoir ce matin, on parle de cas de chirurgie d'un jour pour tenter de réduire les listes d'attente. Et donc, l'hôpital Anna-Laberge, on donne des exemples, offre depuis 4 mois le remplacement total de la hanche en chirurgie d'un jour, une intervention qui a été élaborée par le docteur Venditoli, qui est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Rosemont. Ça veut dire qu'on essaie d'opérer, parce que n'oublions pas que projecteur mis sur la COVID, puis quand vous avez des patients plus jeunes qui passent plus de temps aux soins intensifs, ce sont des opérations qu'on est obligé de retarder parce qu'après certaines chirurgies, les patients passent par les soins intensifs pendant un certain temps. Et donc, quand les lits sont occupés, il y a des chirurgies qui, malheureusement, sont annulées ou encore sont repoussées. Dans la catégorie des nouvelles touchantes, puis je parlais des réseaux sociaux il y a quelques instants, vous avez peut-être vu sur Twitter l'histoire de Dr Nadia Chaudhry, qui est docteur en neurosciences à l'Université Concordia. Et elle a eu un diagnostic d'un cancer des ovaires il y a un peu plus d'un an, juin 2020. Et c'est un cancer avec métastase. Pas d'espoir. Elle est actuellement aux soins palliatifs au Centre hospitalier universitaire McGill. Et tous les jours, et même, je pense, plusieurs fois par jour, moi, je la suis du coin de l'œil, elle témoigne de sa journée. Elle est en fin de vie. Elle le sait, elle l'assume, mais elle demeure absolument rayonnante, porte des vêtements de couleur spectaculaire. Il y a un article sur elle dans la Gazette ce matin. Et elle amasse des fonds pour créer une bourse d'études. Et elle a gagné énormément d'abonnés à son compte. Je pense que c'est 73 000, 75 000 personnes. Je vous invite à regarder ça. Quand vous trouvez que le monde va mal, là, quand vous trouvez que tout le monde est à moitié fou, puis qu'il y a des pressions, puis de l'attention, Docteur Nadia Chaudhry, C-H-A-U-D-H-R-I. Puis ça fait comme un bon. Il y aura une place Oscar Peterson au centre-ville de Montréal, ça a été annoncé. Et deux nouvelles en provenance des États-Unis. Bon, il y a évidemment tout le débat sur les talibans, mais aussi une loi qui a été adoptée au Texas sur l'avortement. Écoutez bien ça, là, rapidement. La Cour suprême, pour l'instant, ne veut pas intervenir dans cette loi et donc bloquer cette loi qui interdit la plupart des avortements. Je dis bien la plupart, on pense que ça touche 85 % des avortements potentiels. On sait qu'il y a déjà un juge, enfin un jugement plutôt de la Cour suprême, datant de 1973, qui reconnaît le droit à la femme d'avoir un avortement. Mais vous avez des États qui prennent des mesures pour restreindre. Et dans ce cas-là, là, c'est pour les avortements après plus de 6 semaines de grossesse. Et c'est tellement, agressif comme loi. Je vous donne des exemples, là. Quelqu'un pourrait poursuivre, pas la patiente nécessairement, mais les médecins, l'équipe médicale, les responsables de clinique, des gens qui sont des conseillers, qui ont du travail communautaire, qui amènent les gens vers l'avortement, quelqu'un qui aurait payé la procédure d'avortement pour une femme, puis tenez-vous bien, même le chauffeur qui va la reconduire à la clinique d'avortement. C'est hallucinant. Je vous dis pas que ça va tenir la route nécessairement devant les tribunaux, mais pour tout de suite, la Cour suprême a dit « je me mêle pas de ça ». Puis, vous voyez, au Canada, quand on parle justement de la campagne électorale, ben ce débat sur l'avortement est pas tout à fait absent. On pense toujours que c'est réglé, mais il y a des gens qui militent fort, puis qui ont des moyens, puis un courant, appelons ça religieux, qui tente toujours de porter ça. Puis les conservateurs, là, ça les tire vers le bas. Ils sont pognés avec une crise interne à chaque fois. Rappelons-nous de la campagne de M. Scheer de 2010.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, allons-y avec quelques questions de base sur le passeport vaccinal. Ça commence aujourd'hui. Je rappelle quand même le grand principe. C'est une période d'essai, une période, si on veut, de transition. Il n'y aura pas de sanctions, il n'y aura pas d'amende. Et disons que ça va s'appliquer avec la pleine force de la loi à compter du 15 septembre. Donc, à compter d'aujourd'hui, dans les endroits qu'on a déjà identifiés, qualifiés de non-essentiels, les restos, les gyms, les événements, où, en fait, quand vous allez faire du sport, vous allez voir des spectacles, il y a comme cette procédure, le passeport vaccinal et une deuxième preuve d'identité pour confirmer qui vous êtes. Robert Maranda est avec nous du ministère de la Santé pour essayer de répondre à vos questions. Monsieur Maranda, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, une question bien simple. Si j'ai mon code QR qui confirme que j'ai été vacciné deux fois, est-ce que j'ai besoin du passeport vaccinal quand même?
Non, pas nécessairement, parce que ce qui fait office de preuve vaccinale, c'est le code QR en tant que tel. L'application, elle existe pour rendre les choses plus fluides pour les gens. On prend le code QR, on l'importe dans l'application. Donc, quand on arrive dans un commerce, c'est beaucoup plus rapide de cliquer sur l'application avec un doigt pour avoir son code à portée de main, au lieu de sortir, de tenter de chercher dans son téléphone sa preuve de code QR dans ses photos ou dans ses courriels, ou même de sortir son papier. Mais tout à fait, là, le code QR est tout à fait valide comme preuve vaccinale.
OK, le passeport, c'est plus facile, vous dites, c'est plus oui. Pratique, mais c'est pas nécessaire.
Non, c'est okay. Ça. C'est une mesure pour fluidifier la chose. Hein. On le fait dans les projets pilotes. Là, ça prend, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser l'application que de prendre le code QR là, dans un fichier X dans son téléphone ailleurs.
OK. Pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, des gens qui n'ont pas de téléphone intelligent, donc qui ne peuvent pas aller chercher les codes ou encore télécharger une preuve papier, là, ils procèdent de quelle façon?
Bon, il y a plusieurs manières. D'abord, on demande aux gens, comme c'était le cas lors de la prise de rendez-vous là, des premières doses, vous vous en souvenez, on demandait aux gens d'aider leur entourage qui n'avait pas moyen technologique de prendre rendez-vous via Clic Santé. C'est la même chose pour cette fois-ci. Ceci dit, si ces personnes-là n'ont pas aucun moyen, il y a toujours la possibilité d'appeler au 1-877 de Service Québec qui pourront, à ce moment-là, vous transférer, vous poser des questions, vous accompagner pas à pas pour aller chercher votre code QR. Si c'est toujours pas possible, on pourra vous l'envoyer par la poste, soit en format 8,5-11 ou en format carte d'affaires. Et là, les gens pourront le faire placer au besoin là, pour le conserver plus longtemps. Okay. Donc, ça sera possible aussi.
Et les gens qui ont une contre-indication médicale, quelles preuves doivent-ils présenter puis de quelle façon?
Bon, on a annoncé ça hier. Les gens qui ont des contre-indications médicales doivent référer à leur médecin. Les médecins seront au courant aujourd'hui, là, les cliniciens de la situation. Ils devront remplir un certain formulaire qui va être annexé au registre de vaccination. Et dans le registre de vaccination, ces gens-là vont pouvoir apparaître comme avoir un statut comme adéquatement protégé puisqu'ils ne peuvent pas avoir de vaccin pour contre-indication majeure. Et donc, une fois que ce formulaire-là est rempli et que c'est dans le registre de vaccination, ces gens-là pourront aller chercher leur code QR via le portail Libre Service et qui va ensuite générer le passeport vaccinal pour l'inclure dans l'application. Donc, ces gens-là qui n'ont pas été vaccinés pourront aussi, via l'application, avoir un statut adéquatement protégé parce que leur médecin aura prouvé que ces gens-là ont une contre-indication majeure. Ça demeure quand même une poignée de personnes au Québec, là.
Non, ça je comprends, mais quand même. Ouais. L'autre chose. Si je me présente, et là je vais donner un cas, là je me présente au restaurant aujourd'hui, j'ai besoin de cette preuve-là avec le code QR ou le passeport vaccinal, puis j'ai besoin d'une pièce d'identité supplémentaire avec photo. Là, j'ai compris, là, juste clarifier ça, là, les gens qui n'ont pas, par exemple, de carte d'assurance maladie avec photo, les plus jeunes puis les personnes plus âgées, j'ai-tu besoin d'une pièce avec mon adresse?
Ben écoutez, pour valider, il faut absolument une pièce d'identité, c'est sûr. Ça peut être une pièce qui a été émise par un ministère ou un organisme public. C'est pas obligatoire de présenter une carte avec une adresse nécessairement, mais c'est une option. Le ministre l'a mentionné hier, ça pourrait être aussi plus rapide, mais c'est pas obligatoire. La carte d'assurance maladie sans photo demeure quand même acceptée, il faut dire, parce que vous l'avez dit, les 16 ans et moins n'ont pas de photo, les 75 ans et plus n'ont pas de photo. Mais la carte de... On ne rejettera pas la carte de la RAMQ, c'est quand même quelque chose d'important au Québec. Donc, on va l'utiliser.
Si j'arrive avec mon passeport vaccinal, ma preuve, puis ma carte d'assurance maladie, pas de photo, ça passe?
Ben oui, ça va passer, okay. Parce qu'on comprend que vous avez 75 et plus ou 16 ans et moins de ce
Parfait.
Côté-là. Là.
Maintenant, dans les restaurants, là, c'est des questions qui reviennent.
Oui.
Je vais commencer par le gym. Je suis abonné à un gym.
Oui.
Je me présente aujourd'hui, ils font la vérification, je suis double vacciné, j'entre. Est-ce que, puis là, je suis membre, là, je suis abonné, est-ce que je vais devoir être vérifié à chaque fois?
Bon, pour l'instant, la réponse, elle est oui. Oui, on devrait être vérifié à chaque fois. Ceci dit, là, on est en deux semaines de rodage. On comprend que les propriétaires de gym et même de restaurants qui ont des clientèles régulières, par exemple, ouais, seront pas peut-être très, très enclins à faire ça à chaque fois. Là, actuellement, on est en train de regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Pour l'instant, on demande aux restaurateurs et aux propriétaires de gym et tout le monde qui sont visés par le passeport vaccinal de le faire à chaque fois. Mais on va voir si des aménagements sont possibles. On travaille là-dessus, là, c'est sûr. On comprend la situation, on comprend que les commerçants doivent faire leurs affaires, les gyms aussi, puis à un moment donné, la clientèle revient régulièrement. Donc là-dessus, on est très, très conscient de la situation. Inquiétez-vous pas de ce côté-là.
C'est vrai aussi pour les activités sportives comme le hockey. Si je vais jouer au hockey chaque semaine avec mon équipe, puis ouais, que là, on vérifie une fois, mais là, ça va être à tous les matchs?
Oui, exactement.
L'instant.
Pour les joueurs seulement, ceci dit, hein. On parle pas des employés d'aréna, on parle pas des entraîneurs et on parle pas des bénévoles. Mais, par exemple, Soccer Québec, eux, plutôt que de scanner à chaque fois le dossier des gens, pour vérifier, on tient ils le scannent une fois et puis ils mettent ça dans un registre, dans un dossier. Parce que c'est une fédération sportive qui est bien organisée, qui connaît beaucoup ses joueurs, qui connaît la liste par cœur. C'est un peu plus serré, par exemple, qu'un restaurant ou un gym. Mais là, l'idée, elle est bonne. Ça va pouvoir fonctionner pour rendre la chose plus fluide.
Mais le restaurateur, il va l'avoir, l'information?
Oui, il va l'avoir, mais pour l'instant, on demande aux gens de scanner systématiquement parce qu'on exige quand même aussi une pièce d'identité avec ça, là.
Okay.
Faut quand même contrôler l'identité des personnes qui rentrent.
Les visiteurs étrangers, là, je pense aux Américains qui viennent, là, qui se présentent au restaurant, c'est le même traitement?
Ouais.
Faut qu'il y ait les deux preuves?
Oui, absolument. Donc, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, ce que ça prend surtout une preuve vaccinale du pays d'origine, là, ou de la province, ou peu importe, là, avec une pièce d'identité. Et c'est ça qui fait office de passeport pour les étrangers actuellement.
Je vous donne un cas, là, vous allez peut-être trouver que c'est tiré par les cheveux, mais mais vous allez voir, un centre commercial, j'ai pas besoin d'une passe, mon passeport pour entrer à l'intérieur d'un centre commercial.
Non, pas okay. Pour l'instant.
Ce qu'on appelle l'offre alimentaire, là, la cour alimentaire, là, est-ce que j'ai besoin de présenter au comptoir mes deux preuves pour faire ma commande et aller m'asseoir dans l'aire où les gens mangent?
Si vous vous asseyez dans un food court qu'on appelle, dans un centre d'achat, oui, vous devez montrer votre passeport vaccinal. Si vous allez chercher de la nourriture en take-out, non, vous n'avez pas à présenter votre passeport vaccinal.
OK, attendez là. Si, mettons, on m'en va aux Galeries d'Anjou ou Carrefour Saint, je sais pas, Laval, là, puis là, je vais me chercher un hamburger. Oui. Si c'est pour aller m'asseoir à une des tables qui est là, il faut que je sorte mon passeport vaccinal. Si je vais la manger, si je vais le manger ailleurs, j'ai pas besoin.
Exactement. Si vous sortez du centre d'achat pour aller manger, vous n'avez pas besoin. Mais si vous vous asseyez, vous devez présenter votre passeport vaccinal. C'est dans une logique où ça va comme un restaurant, hein, c'est la même chose. Donc, quand il y a beaucoup de gens assis dans un même endroit, mais c'est là qu'on veut contrôler les éclosions. Tu sais, le passeport vaccinal, on se rappelle, c'est pour contrôler les éclosions, empêcher les éclosions. Donc, voilà la logique derrière cette règle-là.
OK, M. Maranda, merci. Je sais qu'il y aurait 10 000 autres questions, mais on pourra sans doute se reparler. Très
sans
gentil
problème.
D'avoir été là. Au revoir. Il est du ministère de la Santé.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, beaucoup d'auditeurs nous posent des questions sur le hockey, parce que la saison est en préparation. C'est sûr que pour le hockey, comme pour les autres activités sportives, le passeport vaccinal est obligatoire pour les jeunes de 13 ans et plus qui voudront jouer au hockey. Paul Ménard est le directeur général de Hockey Québec. Monsieur Ménard, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, donc, tous les jeunes de 13 ans et plus vont devoir présenter le fameux passeport vaccinal. Pourquoi, est-ce qu'on vous l'a expliqué, pourquoi les entraîneurs, les bénévoles n'ont pas la même demande?
En fait, les bénévoles, entraîneurs et officiels sont référés à la C1-2-SST, étant donné qu'ils sont des travailleurs bénévoles. Dans certains cas, les officiels sont quand même rémunérés. Alors, c'est la raison pour laquelle ils sont référés à la CNESC.
Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Ils sont référés dans quel sens?
Ben, en fait, ce qu'on nous a mentionné, c'est que au niveau des bénévoles, des entraîneurs, des officiels, ils étaient considérés comme des travailleurs bénévoles. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont référés à la CNESST.
OK, mais eux n'ont pas besoin de présenter. Là, l'entraîneur d'une équipe Bantam n'a pas besoin de démontrer qu'il a été vacciné.
Non, pas pour le moment, non.
OK. Puis est-ce que, parce que tantôt, M. Maranda me parlait du soccer, je pense, là, mais est-ce qu'au hockey, on va vérifier la double vaccination une fois ou à chaque match?
Ça risque d'être très différent d'un endroit à l'autre, étant donné que le hockey étant un sport à l'intérieur, là, comme on sait tous, il y a l'infrastructure, il y a l'aréna. Est-ce que c'est l'aréna qui va faire les vérifications? Est-ce que c'est la ville qui va faire les vérifications ou c'est l'association d'hockey mineur ou l'organisation? Nous, la façon dont on s'est préparé, c'est que on a demandé à nos organisations, associations d'hockey mineur, de faire la vérification. Dans ce cas-là, ça serait assez simple pour nous de dire à nos organisations, on va vous envoyer un consentement, puis un coup que vous avez fait signer le consentement, faites-vous qui soit rentré dans une base de données, on va faire la vérification une fois. Je sais que j'ai entendu que le soccer était pour faire ça. Juste vous donner un type d'exemple. Hier soir, j'avais une réunion et il m'a été mentionné que j'ai pas validé, là, j'ai pas vérifié, mais il m'a été mentionné que dans une ville dont l'organisation fait partie, que c'est la ville qui va faire la vérification. Donc, à ce moment-là, eux ne bâtiront pas de base de données. Alors, ce que nous, on va recommander à nos gens, c'est de toujours avoir la preuve du passeport vaccinal avec eux. Mais si des vérifications sont faites par l'association d'hockey mineur, dans le but de réduire la tâche qui est additionnelle qui est demandée à nos bénévoles, on va essayer de le faire une fois, là.
Entre vous et moi, là, c'est pas compliqué à peu près. Là. C'est
très compliqué.
Non, mais il y a quelqu'un qui écoute ce matin, qui est à Laval, à Longueuil, qui se dit, moi, dans mon association pour mon gars, ma fille, ça ressemble à quoi, là? C'est à la carte, je comprends bien. Il n'y a pas une règle.
J'ai participé à la dernière réunion là, de la CAIR, qui est l'association pour les, les arénas, là, entre autres. Là. Et c'est ce qui est ressorti. Là. Dépendamment des endroits, est-ce que c'est la ville qui va faire la vérification? Est-ce que c'est l'aréna? Est-ce que c'est... Puis dans l'aréna, ben, vous avez des arénas qui sont propriétés de la ville. Vous avez des arénas qui sont propriétés, qui ont un propriétaire. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est eux qui vont le faire? Une chose est certaine, par exemple, c'est ce que j'ai mentionné à cette réunion-là, c'est qu'on ne peut pas demander aux bénévoles d'une association de hockey mineur de faire la gestion des parents. Et ça, vous savez que c'est compliqué aussi au niveau des parents.
Bon, mais là, j'y arrive là, pour les parents. Là. Moi, si ma fille joue au hockey, est-ce que je peux aller la voir? Puis est-ce que ça me prend mon passeport?
Vous pouvez aller voir votre fille. Si et de là que ça devient un peu compliqué, si vous pouvez aller voir votre fille, dans l'aréna, si vous êtes debout, c'est 25 personnes. Si vous êtes si vous avez un endroit où est-ce que vous êtes assis, ça peut aller jusqu'à 250. Donc, on peut pas demander, nous, à nos bénévoles d'association d'hockey mineur, de faire la gestion des parents s'ils sont debout ou assis. S'ils sont debout, ils sont plus que 25, ça prend le passeport. S'ils sont assis, ils sont plus que 250, ça prend le passeport.
OK, on répète ça tranquillement. 25 debout, pas de passeport. Plus que 25 debout, ça prend le passeport. 250 oui. Assis, ça prend le, y a pas de passeport, puis 250 et plus assis, ça prend le passeport.
Exactement. Alors, on peut pas demander ça à nos associations, à nos bénévoles. Nous, c'est sûr que pour nous, la sécurité, c'est primordial, là, ça, là. Regardez, on passera pas à côté de ça. Maintenant, on ne peut pas faire la gestion de qu'est-ce qui va se faire dans les arénas. Alors, non, je l'ai bien mentionné à la réunion de l'association que nous, nos bénévoles, okay, ne feront pas ça, là.
Je vous arrête là-dessus, M. Ménard. C'est déjà beaucoup d'informations. Merci. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Paul Ménard est le directeur général de Hockey Québec. Est-ce quelqu'un de la santé publique qui a mis le pied dans un aréna, qui est allé voir comment ça fonctionne, une game de hockey? Non, mais hey, qui va compter les bénévoles, puis les parents, puis là? Entre vous et moi, je lance un message à la ministre Isabelle Charest. Pourriez-vous clarifier ça au plus sacrant, puis rendre ça plus simple au plus sacrant, puis pas pelleter ça dans le cours des bénévoles, puis des associations, puis de la ville, puis... Tu sais... Il y a peut-être des parents aussi, tu sais, pas vaccinés qui vont vouloir y aller, puis amener le petit de 6 ans, puis disons que ça va être quelque chose à faire.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, ça va être à suivre, en tout cas, puis essayer de comprendre ce qui est arrivé à Laval. Merci, Bénédicte.
Au revoir.
Bon, rapport du coroner Dominique Aymon, qui a été rendu public hier, et sérieusement, ça a attiré beaucoup notre attention. Pourquoi? C'est la mort de Michael Gagnon. Il est mort le 5 juillet 2019, 25 ans, mort subitement. Il était en train de travailler, donc, sur un chantier. Il était dans une nacelle. Et il faisait très chaud, c'était 33 degrés cette journée-là, puis on s'est dit, bon, ben 25 ans exposé au soleil, coup de chaleur, il est décédé. Et l'enquête du coroner a permis de découvrir que c'était tout à fait autre chose. Docteur Aymon, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment expliquer la mort de ce jeune homme de 25 ans?
Dans le fond, ce qu'on retrouve, comme vous disiez, là, c'était une journée très chaude, 39 degrés ressenti avec le facteur humidex, selon les données recueillies par Environnement Canada. Le jeune homme s'est écroulé à l'intérieur de la nacelle, comme vous l'avez si bien dit. Le coup de chaleur a été écarté parce que moi, j'ai travaillé de pair avec la CNSST. Avec l'emploi du temps puis les trouvailles qu'on a retrouvées à l'autopsie, il n'y avait pas d'éléments en faveur d'un coup de chaleur. ce qu'on a découvert, c'est une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire un épaississement de toutes les parois du cœur, de tout le muscle cardiaque. On n'avait pas d'infarctus, mais on avait vraiment cette hypertrophie-là, ce muscle qui était beaucoup plus gros. Et avec des informations recueillies auprès des proches et partenaires d'entraînement, on savait que monsieur Gagnon faisait l'usage de stéroïdes anabolisants, ça depuis plusieurs années, depuis quelques temps. Et il y avait la notion de l'usage du clambutérol.
Donc, c'est quoi ça?
Le clambutérol est un bêta-2 agoniste, c'est-à-dire c'est une substance qui fait ouvrir les bronches. On s'en sert dans le domaine vétérinaire, là. C'est une substance qui est hautement toxique. Mais on s'en sert, c'est un produit dopant illicite là au niveau du sport qui permet d'avoir des résultats anabolisants, c'est-à-dire une fonte de la graisse et une augmentation de la masse musculaire. Mais pour avoir ces effets-là, on doit l'utiliser à haute dose.
Et c'est un produit interdit, là. C'est vétérinaire, oui. Ça, là.
Dans le fond, dans certains pays, c'est commercialisé sous la forme vétérinaire, mais nous, ici au Canada, c'est pas utilisé du tout, c'est illicite. Dans le fond, les gens s'en procurent via des plateformes web ou via d'autres utilisateurs dans les salles de sport sur le marché noir, c'est illicite.
Et selon vous, c'est quoi? C'est la consommation abusive de ces produits-là qui ont amené l'épaississement du cœur et son décès?
C'est ça. C'est que dans un sens, bon, comme vous avez pu voir dans mon rapport, l'utilisation chronique des stéroïdes anabolisants et du clambutérol amène plusieurs changements physiologiques au niveau du cœur, mais au niveau du corps et au niveau du cœur. Donc, il y a un épaississement qui se crée à long terme. Fait que ce remodelage-là crée des problèmes de conduction électrique, donc qui peut amener éventuellement à faire des arythmies malignes. Ça peut arriver comme ça, tout d'un coup, on fait une arythmie maligne, puis on décède. Donc, ici, c'est une partie de mon enquête. Mais c'est sûr que on ne peut pas exclure que le clambutérol a pu jouer un rôle d'une intoxication surajoutée, là, comme je le dis bien dans ma conclusion de mon rapport, puisque le clambutérol peut amener des arythmies malignes. Mais il n'y a pas beaucoup de cas dans la littérature, vous comprendrez, parce que c'est pas une substance qui est utilisée au quotidien. C'est une substance qui est illicite et excessivement dangereuse, vous entendrez bien. Donc, on a quelques cas pour démontrer c'est quoi les symptômes qui sont présentés lors d'intoxication au clambutérol. Mais donc, vous voyez que c'est difficile d'associer directement une intoxication aiguë, mais on a quand même découvert les effets délétères à long terme des stéroïdes anabolisants et de l'usage du clambutérol au niveau de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire l'hypertrophie du cœur de M. Gagnon.
La consommation de stéroïdes, on comprend que c'est pas nouveau comme tel, là, c'est-à-dire que des gens décident d'acheter des produits sur le marché noir pour améliorer leur performance. Mais à la lumière de votre enquête, quelles recommandations vous faites? Parce que là, on parle d'un jeune homme de 25 ans foudroyé.
Oui. Dans le fond, c'est ça. C'est, vous comprendrez, ici, je fais des recommandations qui étant des campagnes de sensibilisation. Donc, en premier lieu, là, je tiens à vous remercier parce que vous êtes des alliés importants, vous les médias, dans des contextes de recommandations comme celle-ci, pour la diffusion du message. Donc, je vous remercie pour la plateforme que vous me donnez ce matin. Donc, moi, ce que je fais comme recommandation, c'est que je recommande au ministère de l'Éducation puis de l'Enseignement supérieur de mener des campagnes de sensibilisation dans toutes les écoles secondaires afin d'informer les élèves sur les risques puis les dangers associés à l'utilisation de produits dopants. Puis, aussi, ce que je demande, c'est de développer une campagne de sensibilisation pour les risques associés aux produits dopants pour toutes les salles de sport, de conditionnement et d'entraînement de l'ensemble du réseau de l'éducation secondaire, collégiale et universitaire qui est associé au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Puis vous saurez, ça s'inscrit bien à l'intérieur de leur programme de sécurité et d'intégrité en loisirs et en sport.
Très clair. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.
À vous aussi. Docteur Dominique Aymon, coroner, donc. Et c'est pas d'hier là, que dans les gyms, on vend des produits, comme on dit, dans le marché noir. Puis, mais qui, là, on voit l'impact. Hyper dangereux. Le gars, il a 25 ans, là. Puis il s'entraîne, il est surentraîné. Et malheureusement, donc, il est décédé.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est notre rendez-vous annuel. Il y en a d'autres durant l'année, mais cette fois, c'est pour nous présenter l'annuel de l'automobile. Benoît Charrette est avec nous. Benoît, bonjour.
Merci, Paul. Rendez-vous annuel apprécié.
2022.
Oui.
C'est une année très particulière, là. Fin 2021.
Effectivement.
Avant de parler des autos, là, on va parler du contexte général. Quelqu'un qui, aujourd'hui, là, peu importe le fabricant, là, veut une auto, il y a des délais d'attente.
Il y a des très longs délais d'attente. Bon, et pour toutes sortes de raisons, je sais qu'on en a parlé en ondes.
Mais on va.
Mais t'as eu d'abord la pandémie, parce que là, il y a eu, avec la pandémie, un arrêt de production automobile. Donc, on a complètement fermé les usines. Ça a duré un gros 4 mois, puis les plus longs, ça a duré 5 mois. Quand on a repris, les fabricants de puces électroniques ont dit, écoutez, on va vous mettre sur la liste, mais vous devez attendre, parce que nous, on a une attente, parce que les gens qui sont restés à la maison ont acheté plus d'ordinateurs, plus de consoles de jeux, plus d'appareils électroniques, qui contiennent aussi des puces. Et là, après ça, il y a eu une pénurie de puces. Il y a une usine au Japon, un très grand producteur, l'usine a brûlé. Les chutes de neige au Texas qu'il y a eu en février 2020 ont affecté, février 2021, ont affecté une usine qui a fermé pendant un certain temps. Donc ça a ralenti le processus et ça dure encore. Là. Les pénuries de puces électroniques, c'est pas fermé. Là. Hier, on a annoncé qu'on fermait encore des usines du côté de chez Chrysler.
Là. Mais là, j'ai vu des modèles en commande où on t'explique que tel item n'est pas disponible parce qu'il manque de puces. Là. Exemple, voilà, le chargeur du téléphone, là, ça sera pas disponible pour le modèle de cette année parce qu'il nous manque ces composants.
Voilà. En fait, on a été capable de compléter à 98% certains modèles. Un exemple assez probant de ça est le Chevrolet Silverado, où on a un système de désactivation des cylindres qui permet de sauver un peu d'essence quand on roule. Bon, ben les modèles 2021, on ne l'a pas inclus, faute de puce, et on le dit aux gens, vous aurez pas le système de désactivation des cylindres. Bon, ça n'empêche pas le véhicule de bien fonctionner, mais effectivement, il manque certaines caractéristiques. Il y en a d'autres qu'on peut pas les vendre, comme les F-150, il manquait les puces pour les vitres électriques, puis il manquait des puces pour, entre autres, les moteurs d'essuie-glace. Bon, c'est pas tellement pratique, c'est ça. Donc, on a empilé les véhicules qui étaient presque finis, sauf qu'il faut qu'ils soient complètement finis pour qu'on puisse les vendre. Et là, on a des retards partout à cause de ça.
Est-ce qu'il y a des fabricants qui s'en sortent un peu mieux que d'autres?
Les Japonais et les Coréens, au début, s'en sont sortis un peu mieux parce qu'il y avait un meilleur accès au stock de puces électroniques. Mais même eux ont fini par arriver à la fin de leur inventaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en automobile, on a des inventaires d'à peu près 30 jours parce qu'on travaille depuis des années avec le juste à temps. Donc, les entrepôts où tu as un an de matériel en attente pour construire, là, ça n'existe plus, ça. Alors, les fabricants, après un mois... Toyota avait fait faire des réserves parce qu'après le tremblement de terre en 2011, eux s'étaient dit, ils s'étaient fait un peu prendre les culottes à terre et on s'était dit, OK, ça nous arrivera plus. On va avoir des endroits où on va mettre des réserves. Ça leur a servi pour un certain temps, mais même eux ont fini par arriver au bout de ce qu'il y avait. Et là, ça touche tout le monde. Là.
Mais compte tenu de ce que tu viens de décrire, quelqu'un qui pense à louer ou acheter un véhicule cette année, là, est-ce qu'il est mieux d'attendre?
Ben, écoute...
Ça dépend des besoins.
Ça dépend des besoins, mais moi, je dirais aux gens, si vous êtes capable d'attendre, attendez encore un an. Là, on prévoit que la pénurie au niveau des puces va durer jusqu'au premier trimestre de 2022. Donc, quelque part au printemps 2022, on devrait reprendre un rythme normal de production après ça et, bon, diminuer les délais d'attente. Mais en ce moment, là, c'est pas rare d'attendre 6 mois pour un auto. Et le problème, c'est que il y a pas plus de véhicules d'occasion parce que les gens qui s'approvisionnent en voitures neuves, tous les gérants de flotte, les compagnies de location d'automobiles qui ont recommencé, parce que là, tranquillement, les gens sortent, les voyages reprennent, bon, lentement, mais la vie reprend son cours. Chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, ils ont recommencé un petit peu plus vite que nous autres, bon, avec des résultats mitigés, dans certains cas. Mais ces compagnies se sont dit, OK, faut refaire notre stock de véhicules. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véhicules neufs. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés dévaliser les encans de véhicules d'occasion. Fait que même les véhicules d'occasion qu'on va acheter sont rares. Donc, en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de véhicules sur le marché.
Est-ce que le parc automobile du Québec, on a vu là, la poussée des camions, là, les SUV et tout ça. Est-ce que c'est toujours la même tendance?
Oui, c'est toujours la même tendance. C'est que là, on va voir une électrification du parc automobile. Puis on va le voir, là, ça s'accélère. Évidemment, ça a ralenti à cause de la pandémie parce qu'il en manque partout, y inclus pour les modèles électriques. Ils font pas exception à la règle. Et on va voir, moi, c'est 2025 là, qui est vraiment la date importante parce que les normes vont être encore plus sévères. On devra avoir une consommation moyenne des parcs automobiles qui vont tourner autour de 4,5 litres au 100. c'est pas beaucoup, 4,5 litres au 100, là. Une voiture, même un petit 4 cylindres, là, ça fait du 6-7, 7-8. Donc, faut encore baisser. Ça, ça veut dire qu'on va électrifier, on va voir des modèles hybrides de plus en plus en grand nombre dans le parc. On va prendre des véhicules qui sont des véhicules utilitaires et on va garder le format. Parce que les gens aiment les formats, aiment avoir de l'espace, aiment avoir quatre places, aiment avoir ce qu'il faut pour partir en vacances en famille. Ça, pour le moment, je pense que ça va rester parce que les gens se sont habitués.
Surtout avec les deux étés qu'on vient de vivre, là, c'est-à-dire limitant les déplacements puis en faisant...
Les gens ont besoin de plus d'espace parce qu'on se sert de son véhicule. Donc, je pense que les formats sont là pour rester. C'est simplement ce qu'il va avoir sous le capot qui va être plus économique, qui va polluer moins puis qui va donner une meilleure consommation.
Qu'est-ce qui t'a impressionné dans les véhicules de cette année, dans les modèles? Tu dis ça, là, pas le coup de cœur, c'est un peu facile, mais tu dis c'est une voiture là ou un camion.
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir à quel vitesse, la technologie évolue dans les voitures. C'est pas tellement au niveau de la conduite, mais c'est de voir qu'on applique de plus en plus. Et là, le 5G s'en vient. D'ailleurs, GM a annoncé là, ce matin une entente avec TELUS pour le 5G dans ses véhicules chez nous. Et ça va ouvrir de nouvelles possibilités parce que, bon, le 5G, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, là, la vitesse d'exécution et la capacité d'accumuler des données est fortement supérieure et les compagnies travaillent beaucoup avec ça. C'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. D'ailleurs, on en parle. On a un reportage dans l'annuel cette année. Êtes-vous dépassé par la technologie? Parce que les gens qui achètent maintenant, qui n'ont pas acheté depuis quelques années... Là,
si tu as le même véhicule depuis 3-4 ans puis que tu vas chez le concessionnaire...
Il y a une grosse différence. Là. Il y a une grosse différence. Il y a un apprentissage.
Les commandes vocales pour la
T'en as, là, c'est le geste. BMW ont des gestes. Bon, c'est en option, mais c'est drôle parce que si comme moi, on parle beaucoup et on gesticule en parlant, j'ai fermé la radio, j'ai parti 2-3 fonctions sans trop savoir comment parce que... Mes mains bougeaient dans l'auto, alors c'est pas... Il y a encore un apprentissage, puis je parlais avec des ingénieurs qui disent on est en période d'apprentissage encore. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une façon simple de faire ces choses-là, mais ça va être compliqué avant d'être simple parce qu'on est encore en essai-erreur pour beaucoup de caractéristiques dans ces autos-là. Mais je pense qu'en général, c'est ça qui m'impressionne le plus. Et je suis content de voir que la majorité des véhicules électriques qu'on a présentés, il y a encore des petits problèmes. Entre autres, là, Bolt chez Chevrolet, ils ont rappelé toutes les Bolt depuis 2017. Problème de batterie, possibilité d'incendie. Puis là, on connaît pas encore la cause exacte. Donc, là, on a arrêté la production. Mais en général, les voitures électriques sont très fiables, très silencieuses. C'est moins d'entretien. Donc,
est-ce que tu sens que l'autonomie est de plus en plus grande?
Oui, bon, ben l'autonomie, tu sais, on regarde là 2012-13, les premiers modèles qui sont arrivés là. Donc, plus ou moins 10 ans, on était à 125-150 km. Là, la norme pour un modèle neuf qui arrive sur le marché, c'est autour de 400. Donc, on a une bonne amélioration. Et là, les piles à électrolytes solides vont arriver d'ici 2025 et on va doubler le 400 qu'on connaît avec un temps de recharge plus rapide une fiabilité éprouvée parce qu'on dit que ces piles-là vont être à peu près intouchables au niveau de la fabrication, que ça va être extrêmement solide. Fait que ça promet. Et aussi, ils vont coûter moins cher. Donc, on va se rapprocher de plus en plus du prix qui va être comparable, à mon avis, là, à un véhicule à essence qu'on connaît en ce moment.
On va s'arrêter pour la pause, puis on va débloquer les circuits téléphoniques, convaincu que les gens ont bien des questions, parce que là, tantôt, on parlait de ce qui est en rareté ou en pénurie, mais les pneus d'hiver.
Ah, ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, ça va être le sujet dont on va traiter cette semaine à Ça tient la route. On revient en onde dimanche à 19h, et c'est mon premier sujet, parce que prenez-vous tôt cette année, parce qu'il y a eu des pénuries aussi du côté des fabricants. Il y a eu des maladies dans les arbres de caoutchouc. Les grandeurs populaires vont partir extrêmement vite.
OK, donc faut acheter cadeau de Noël avant, parce qu'il y a des problèmes de production, puis faut acheter les pneus d'hiver maintenant, parce que sinon on aurait un problème.
Absolument. Non.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.